Vous écoutez Cinéphile de notre temps.
L'animation, de très loin, est la meilleure façon de donner vie aux choses inanimées. Les jeux d'enfants fonctionnent avec la même magie. Ce genre de magie est pile le point de rencontre entre l'enfance et l'animation. Et c'est Jens Bankmeyer qui a dit ça, au site Electric Sheep Magazine. Et je sais pas, est-ce que t'as envie de réagir à cette citation pour commencer ?
Et ben, je trouve qu'elle est très juste. Il y a un vrai... Dans l'animation, il y a une vraie notion de jeu, en fait. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est relié avec l'enfance. On en a d'ailleurs, on en reparlera, je pense. Mais
oui, ton questionnaire, ouais, voilà.
et je trouve que c'est un bon moyen aussi de, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, d'explorer les territoires de l'enfance justement par ce biais-là. Elle est très bien cette citation. Me plaît beaucoup.
Bon, bah, ça va être la première fois, je crois, que la réaction est aussi rapide pour la citation. Donc, je te présente juste après. Donc, on a essayé de faire un truc un peu à la hauteur de tes films. Pour te présenter. Donc souvent, on voit des êtres qui courent à travers des lignes d'arbres, des maisons qui tournoient et qui tombent, des yeux qui dévorent l'écran et un fond noir où on voit s'animer des couleurs et des formes, un humour un peu grinçant et surtout une musique qui semble sortie des images, si ce n'est l'inverse. C'est souvent ce qu'on peut retenir de tes courts-métrages d'animation et notamment de ton premier, Je suis la ligne, qui a été fait pour le Nikon Festival en 2012. Et surtout dans ton court-métrage de fin d'études, Julienne, histoire de corbeau, que tu as fait donc, aux Arts décoratifs de Paris. Et enfin, dans ton dernier court-métrage, L'heure de l'ours, qui a été sélectionné au Festival de Cannes l'année dernière et qui est actuellement visible sur Arte, si vous voulez aller le voir. Donc, lorsqu'on regarde ton travail, on a l'impression d'être saisi par des ressentis, des émotions parfois très violentes, plus que par des histoires. L'univers est toujours très onirique et nous rapproche des éclats de l'enfance. Un univers donc on pourra apprécier tout au long de ce portrait cinéphilique que nous allons faire ensemble. Et nous sommes très heureux de t'accueillir, Agnès Latron, et on te remercie encore d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous de m'avoir invitée. Et est-ce que je peux corriger deux petites erreurs, je
suis... Oui.
C'est pas grave du tout, hein, mais en fait, mon film de fin d'études, ça s'appelait La Veuve Caillou.
Ah, c'est pas Julienne.
Et c'est pas Julienne, mais c'est pas grave. Et c'est amusant, du coup, parce que Julienne et Je suis la ligne pour le festival Nikon, on l'a fait... avec une co-réalisatrice qui s'appelle Cerise Lopez, qui est une amie des Arts Déco à moi. Et en fait, chacune a fait son film de fin d'études, seule, aux Arts Déco. Donc moi, j'ai fait La Veuve Caillou. Et elle a fait un film qui s'appelait Les Aimants. Et en préparant Julienne, il y avait le Nikon Festival juste avant. On s'est dit, on va voir comment ça marche ensemble. On teste, on fait un petit truc vite fait. Et donc, on avait fait ce film-là, Je suis la ligne. Et ensuite, on a été produite par Iki Film pour Julienne, histoire de corbeau.
Ah,
donc c'est, en fait, c'est...
J'ai fait
c'est
plein de...
Mais il n'y a aucun souci, c'est bien, je suis là pour les corriger.
Mais donc c'est
désolée de faire la vieille prof, mais voilà, du coup, je fais deux petites corrections. Vrai. Voilà.
Et donc, on va commencer ce portrait par Si j'étais. On t'a demandé si tu étais un instrument de musique au cinéma. Lequel serais-tu ?
Alors, j'ai répondu le piano dans La leçon de piano. C'est un peu bateau, mais en même temps, c'est un film que je trouve magnifique. Et ça m'est venu direct. Donc, je me suis dit, je vais pas tricher et chercher plus dur.
Et qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans ce piano-là ? Parce qu'il est presque comme un être humain dans ce film donc de Jane Campion qui est sorti en 1990. Je crois bien.
Alors ouais, je pourrais pas dire la date, mais sûrement, on a sûrement raison. Déjà, j'aime énormément la composition, enfin le thème musical du film, qui est une espèce de cascade quoi, émotionnelle. Et effectivement, c'est un personnage à part entière dans le film, le piano. Et c'est... Alors certes, il finit à la fin, je crois, au fond de l'océan. Donc je n'aimerais pas finir comme ce piano, c'est la chose qui m'est venue immédiatement et j'aime énormément les films de Jane Campion, donc je pense que c'était la meilleure réponse que j'ai trouvée de manière spontanée.
Et est-ce que c'est quelque chose que t'as envie de retranscrire aussi dans tes films, cette place de la musique justement ?
Oui, alors voilà, il y a aussi cette place de la musique dans le film, c'est-à-dire que pour moi, dans la leçon de piano, image et musique, c'est une seule et même chose en fait, il n'y a pas de décollement entre les deux, on peut... je veux dire, je pense aux images du film, j'ai la musique qui vient immédiatement, et vice-versa, en fait. Donc, moi, j'aime bien quand, dans les films, il y a cette espèce de fusion entre les deux. Quand il y a de la musique qui est utilisée, j'aime pas toujours... Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de musique, je peux aussi aimer le film, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a cette fusion entre les deux et que l'un se mêle à l'autre à ce point-là, je trouve ça vraiment magnifique. Enfin, il y a l'émotion est encore plus dense et plus juste, j'ai l'impression.
Mm-hmm. Toi, c'est quelque chose vers quoi tu as envie de tendre aussi en tant que cinéaste?
Mais oui, en tout cas, j'ai du mal à penser un film sans avoir la musique en tête, presque au préalable du film. Un des films où, justement, quand je suis en co-réalisation, là avec Cerise, par exemple, pour Julienne, Histoire de Corbeau, ou La Ligne, la musique, elle a vraiment été faite après, et je ne me la figurais pas du tout. Et par contre, quand je suis seule, la musique, souvent, elle précède presque le film. Et je pense que c'est, je ne sais pas, ça fait naître les images... Et l'un ne va pas sans l'autre.
En tout cas, ça se sent très fort dans L'Heure de l'Ours, ce rapport quasi organique entre la musique et l'image.
Eh bien, dans L'Heure de l'Ours, elle a été composée avant le film, la musique. Mmh. Et en fait, je m'en servais pour monter toute la partie finale, notamment. Voilà.
D'accord. Et il y a même des parties de danse dans L'Heure de l'Ours qui sont assez incroyables. Enfin, c'était où les enfants se mettent à danser de manière contemporaine, assez. Enfin, où la danse ressemble à la danse contemporaine et c'est. Ouais, la musique prévaut limite sur le film, enfin sur les images à ce moment-là.
Oui, c'est un souci pour moi. D'ailleurs, en animation, c'est parfois le son et l'image s'annulent, ou les voix et l'image s'annulent, ou parfois dans l'animation documentaire, quand une voix parle et qu'on est trop pris par les images, on oublie la voix. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Et souvent, j'ai l'impression que quand il y a de la musique, l'image, elle peut être réduite à sa plus simple expression et
sans parole,
et ça
finalement.
Fait sens, enfin, sans parole. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de parole dans le film. Et la musique a exprimé vraiment, pour moi, l'intériorité des personnages et d'autres choses. Enfin, mais c'est vrai que j'avais besoin de très peu de... Dans l'image, elle est très noire et puis il y a quelques silhouettes qui dansent. Mais je n'avais pas besoin de beaucoup d'images puisque cette musique était déjà là et qu'elle nous embarquait. D'ailleurs, il y a une partie de la musique qui se passe, qui est presque sur du noir à la fin.
Oui.
Donc, voilà.
C'est vrai. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et donc, on t'a demandé en deuxième question, si tu étais un enfant au cinéma, lequel serais-tu? Et tu nous as répondu Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion. Et pourquoi? Enfin, est-ce que c'est parce qu'il est totalement libre pendant un certain temps? Est-ce que c'est cette envie de liberté un peu folle?
Ouais, je pense, en fait, j'ai essayé à chaque fois de répondre vraiment ce qui m'est venu en premier, c'est-à-dire comme ça, il n'y a pas de faux-semblant. Dans... et en fait, je me rappelle que quand j'étais petite, mais je rêvais d'être Kevin McAllister. Et c'est justement ça, c'est les parents sont partis, il faut défendre. Il faut se défendre contre des méchants qui sont bons, enfin, d'un point de vue extérieur, de petits spectateurs font un peu peur, mais bon, finalement, ça va. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est cet énorme espace de liberté, d'un coup, la maison vide. Enfin, moi, j'adorais la scène que je préférais, c'est quand il découvre qu'il n'y a plus personne et qu'il fait n'importe quoi. Et bon, bah voilà, c'était...
Mais tu avais découvert comment ce film?
Alors là, en fait, je crois qu'il y avait la vidéocassette chez ma grand-mère. Et on le regardait en boucle, hein, avec mes cousins. Voilà.
Et est-ce que, voilà, oui, est-ce que ce rêve d'enfant que tu avais, est-ce que c'est une question que tu répondrais toujours en étant adulte?
Oui, je trouve que, enfin, après, moi, pour moi, c'est ce que j'essaie d'explorer un peu dans L'Heure de l'Ours, c'est-à-dire qu'en fait, cette question de liberté, elle nous concerne tous, elle ne concerne pas que les enfants. Et en ayant des enfants moi-même et en découvrant toutes les difficultés d'éduquer un enfant et aussi tout le système qui est établi, scolaire, etc., qui cadre énormément, en fait, je me dis. C'est fou à quel point on est conditionné tôt, on devient des petits produits, et la colère est vue comme quelque chose, ou la rébellion, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où c'est hyper nécessaire, et ça va faire, c'est ce qui va allumer des étincelles dans notre société. Ça a toujours été le cas, à des périodes précises, mais c'est comme si, enfin, moi, là, j'en ressentais encore plus le besoin en tant qu'adulte, et donc c'est ce que je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas de mal à m'identifier à l'enfant dans le film et à le faire vivre. Alors, il y avait mon fils qui m'inspirait, mais il y avait aussi ma
Toi.
Propre colère,
ouais.
Voilà, qui qu'elle soit liée au monde dans lequel je vis, sur des points qui sont pas forcément précis. Hein, je suis pas une personne très politisée, mais je pense qu'on ressent ce moment où tout le monde nous prend pour des enfants. y compris nos propres parents, notre propre famille, et où nous, on a envie de dire, mais en fait, là, j'ai passé le cap, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de donner mon opinion, et ben non, en fait, il y a toujours une instance supérieure qui nous demande de...
Oui, comme
de prendre sur nous.
Pendant le Covid.
Et oui, exactement, ça a été hyper flagrant.
Mais c'est justement cette partie de l'enfance que tu récuses, cette partie où on est hyper infantilisé. Toi, tu veux la partie un peu folle, un peu sauvage.
Oui, je me dis. Dans l'heure de l'ours, il y a une utopie qui est de dire si les enfants retournaient un peu à leur état sauvage, hein, ce qu'on est tous primitivement. On le voit bien quand un enfant grandit. En fait, c'est fou. Moi, je vois grandir mon petit garçon. Là, maintenant, il a 5 ans et demi. Il s'est lissé au contact de cette société, de nous tous. Et nous, les premiers, les adultes, parce qu'en fait, on ne pourrait pas gérer un an. Ou alors, il faudrait qu'on aille vivre autrement et ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a cette utopie dans le film de se dire, ils partaient tous à dos d'ours et vivent dans la forêt, tranquille, tout seul. Je m'interroge vachement sur ça en ce moment. À travers ce film-là et probablement à travers d'autres projets qui viendront sur la notion aussi d'enfants, pas d'enfants sauvages au sens où on l'a un peu établi de manière romantique là, à une époque, mais plus dans les enfants en micro-société livrés à eux-mêmes. Il y a un documentaire qui s'appelle Récréation. De Claire Simon, qui est hyper bien. Il y a Braguino aussi de Clément Cogitor que je trouve magnifique comme film et qui sont pour moi par exemple des documents presque sociologiques sur qu'est-ce que l'enfance et l'enfance hors des adultes en fait.
Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus elle se fait pas du tout sans insouciance, je trouve.
C'est ça.
C'est
très contraire à l'image qu'on nous donne.
C'est des idées qu'on peut avoir.
Exactement. De ce que nous donne la publicité, le discours très ou même ce qu'on découvre en devenant parent, qu'un enfant n'est pas du tout une petite mallette de douceur.
Ah non, c'est une innocence qui est un peu construite,
ou
fantasmée même.
Complètement.
Mais sinon, c'est beaucoup plus rêche, beaucoup plus...
Ouais. Moi, c'est mon point de vue de l'enfance. C'est quelque chose qui n'est pas du tout idéalisable au sens où nous, adultes, on le fait sûrement par nostalgie. Et qu'on a retenu juste peut-être le fait qu'on n'avait rien sur les épaules. pour certains, ça dépend des enfants. Mais voilà, et je pense qu'en vrai, l'enfant, c'est beaucoup plus âpre que ça.
Non, mais je suis très d'accord. Et pour la troisième question, on te demandait quelque chose comme un vent, une tempête, quelque chose d'invisible, mais de représentable, notamment dans le cinéma d'animation, que tu serais au cinéma.
Et moi, je disais les vents un peu magiques qu'il y a dans les films d'Igor Kovalyov. Alors, Igor Kovalyov, c'est amusant parce que c'est aussi le créateur d'Erasmoquette. Donc, il fait le grand écart, en fait. Dans ses courts-métrages, c'est des courts-métrages je pense, d'auteur, entre guillemets. Je ne sais pas vraiment comment on définirait ça. Mais donc, les personnages, de temps en temps, se gonflent comme ça, très lentement, ont les vêtements qui... C'est valable aussi dans les films de Miyazaki, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pensé à ça.
Et pourquoi ça t'a marqué? Ils sont significatifs, pourquoi?
J'ai l'impression que souvent, c'est des expressions aussi de personnalité, d'émotion. C'est ce que permet l'animation et qui n'est pas forcément permise dans ce cas précis par le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, de déformer un personnage ou son enveloppe, c'est pas difficile quand on dessine sur du papier. Ça l'est plus on fera appel aux effets spéciaux sûrement si c'est du cinéma. Et je trouve que ça exprime de manière visuelle quelque chose d'intérieur.
Et t'as une image en tête dans un des films de Kovalyov?
Je crois que c'est... j'ai plus le... Quel est le film? Il y a sa femme poule, ça s'appelle Hen His Wife, notamment, où il y a des c'est un de ses premiers, où là, il utilise vachement ces transformations-là. Mais il y en a un autre qui est assez beau, mais dont j'ai oublié le nom, et où il y a un monsieur qui vient visiter une femme, comme ça, dans une maison. Il y a un truc avec un oiseau. C'est bien. Bravo. Et celui-là, il y a ça, justement. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est un peu quand le personnage est en alerte, où il y a de souvenirs. Je ne l'ai pas re-regardé, moi, pour le coup. Je n'ai pas fait mes révisions.
Mais en plus, j'ai l'impression que déjà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'heure de l'ours, où j'avais vraiment l'image où, par exemple, quand à un moment, le père s'énerve il se retourne et la mère prend son espèce, enfin, un espèce de vent qui passe du père à la mère.
Et ça, il lui dégonfle et elle a les cheveux qui...
Ouais.
Bah, c'était un peu pour le père que moi j'appelle le cow-boy parce que je le vois pas comme un père, mais comme un visiteur. Mais chacun, ce que j'aime bien, c'est que chacun projette l'image qu'il veut sur lui. Et en fait, il fallait trouver un truc un peu qui décolle d'une anime réaliste. Et c'était Cerise, donc ma coréale sur Julienne, qui a aussi travaillé sur L'Heure de l'Ours, mais plus à la couleur, au traçage de la peinture, mais avec qui j'ai toujours des discussions. Enfin, d'ailleurs, plusieurs personnes de ma promo des Arts Déco ou même d'autres promos, je trouve que ça marche toujours en ping-pong un peu d'avancer sur un film. Et c'est toujours les interlocuteurs que tu as qui, à des moments, ont une espèce d'interaction avec toi où ça te fait allumer une ampoule quoi, dans ta tête. Et là, Cerise m'avait dit ça. Elle m'a dit « Ah oui, un peu comme dans les films de Rostow aussi, où il y a faudrait qu'il y ait une bizarrerie à ce mec-là. » Et c'est vrai que je la trouvais pas, et c'est en animant que je l'ai trouvée, en fait. À un moment donné où on bloquait parce que j'ai confié l'animation à des animateurs, et moi j'en ai pris une partie, et en fait, à un moment donné où je bloquais sur ce cow-boy qui n'avait pas trop de... Voilà, que je trouvais pas assez étoffé, je me suis emparée de l'animation où il tire au fusil sur l'enfant, enfin, il fait semblant de tirer. Et il y a le plan large où il fait « Ah, ah !» Enfin, il a une espèce de montée comme ça. Et d'un coup, il s'est gonflé quand je l'animais. Et ça marchait bien. Et on l'a réutilisé ensuite, tout le monde du film.
Oui, et puis il a plein de plis. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi dans Kovalev. Et ça donne un peu une impression très lubrique, très dégoûtante.
C'est ça aussi. Oui, exactement.
Et c'est très présent dans les courts-métrages de Kovalev, parce que, enfin, j'ai l'impression, après c'est des courts-métrages, ceux qu'on a vus, on a l'impression, enfin, on comprend pas tout ce qui se passe, des histoires très sibyllines. Voilà, dans And His Wife, on a une femme qui est une poule, qui découvre qu'elle est une poule à travers les yeux de son mari, qui repart, c'est un peu... On comprend pas très bien, mais voilà, on a l'impression que les personnages sont extrêmement sexualisés dans...
Ouais, complètement.
Ouais, dans Kovalev, énormément. Et je pense que c'est... Enfin, oui, j'imagine que je l'ai pas interrogé sur la question, mais je pense que ça doit avoir un lien.
Oui, non, c'est ce que je... Enfin, ça m'a vraiment frappé quand j'ai vu les films de Kovalev et quand j'ai revu L'Heure de l'Ours, c'est tous ces plis où le père est détestable, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis ça donne ce côté envahissant, ce côté... Et puis il y a aussi le côté, dans le scénario qu'on avait créé avec Johanna, il y avait le côté... c'est un peu un coq, le type, et puis il se dégonfle, quoi. La dernière minute, il y a l'ours, il se barre. Et en fait, bah, c'était une manière hyper littérale de le montrer. Quand il recule dans le noir et qu'il a son vêtement qui devient tout liquide comme ça, en fait, c'était une manière pour moi de montrer qu'il se dégonfle, quoi. Ouais. Hyper littéral.
Alors, on va peut-être passer à la deuxième grande partie du questionnaire, qui concerne les circonstances et conditions de visionnage.
Ouais.
Et donc, la première question qu'on t'a posée, c'est le film que t'as vu, justement, dans des conditions, a priori, assez déplorables, mais pourtant que tu as adoré. Et du coup, tu nous as répondu « Mon oncle d'Amérique » d'Alain Resnais, et que t'as vu deux fois sur le même mini-écran de ton ordinateur il y a peu de temps,
ouais.
Peut-être... grâce au confinement,
des offres,
c'était
VOD,
avant le confinement. C'était avant le confinement, c'était sur Mubi, qui est un super, super site pour voir des films. Et
j'essaye justement de rattraper mon manque de culture cinématographique sur Mubi. Et je trouve que, très régulièrement, je me fais happer par Mubi, comme ils font des cycles.
C'est encore pire.
D'un coup, ça donne. Ouais, là, c'est terrible. C'est bon. Ouais, exactement. Là, c'est vraiment. C'est devenu extrême. Mais bon, comme je suis occupée à pas mal d'autres choses, c'est vrai que j'ai moins le temps de regarder Mubi. Mais donc, je l'ai vu sur Mubi et il m'a. Enfin, je sais pas. J'ai eu besoin de le voir deux fois et c'était des conditions vraiment. Enfin, là, je me suis dit, quelles sont les pires conditions à part regarder sur l'écran de mon téléphone. ce qui m'arrive parfois, mais ce que j'aime pas trop faire, c'est en gros, quand même sur un petit ordi où j'ai même. La deuxième fois, j'ai mis une petite enceinte Bose pour entendre mieux le son, mais en vrai je l'ai écouté même pas avec casque, quoi, donc c'est vraiment ignoble comme condition de projection, mais je l'ai adoré.
Et malgré tout, ouais, le film t'a suffisamment accroché, justement.
Ah, complètement.
Mais qu'est-ce qui t'a suffisamment happé, en fait, malgré ces conditions, du coup, pour...
Alors je sais pas, je pense que le montage étant extrêmement fort, au final, c'est vrai que, par exemple, regardez, je pense à un film de Tarkovsky, ou sur un petit écran d'ordi, enfin, sûrement qu'on s'y retrouve, mais moi, j'avais, enfin, c'est des films que j'ai toujours vus en salle, pour le coup. Là, je dis pas du tout, j'amoindris pas du tout les qualités d'image du film d'Alain René, c'est pas du tout le propos, mais en fait, je crois que ce qui m'a happé là, sur ce film-là précisément, et qui a suffi, enfin, à me contenter aussi en le regardant dans des qualités pas terribles, enfin dans des conditions pas terribles plutôt, c'est toutes ces trouvailles de montage qui sont géniales entre l'aller-retour avec des films classiques et qui expriment justement l'intériorité des personnages. En fait, le procédé a tellement allumé une petite lumière à l'intérieur de ma tête que le film est passé tout seul et que j'ai eu besoin même de le revoir. J'avais pas d'autre chose que mon ordi pour le revoir. J'aimerais bien le revoir dans des conditions meilleures, sûrement. J'y viendrai un jour, mais pour l'instant.
Oui, c'est parce que c'est suffisamment ludique aussi que t'as pu un peu. Enfin, c'est vrai qu'il y a une dimension quand même.
Oui, il y a un système qui est établi. Il y a quelque chose de. Enfin, voilà, il y a. En fait, on en reconnaît les immenses qualités sans avoir forcément besoin d'une qualité de projection parfaite parce que je pense que aussi ça dit beaucoup de l'esprit que je connais mal, hein, j'ai dit des choses un petit peu, mais d'Alain René, et je trouve que j'avais vu pas mal d'autres de ses films, et ben notamment dans des conditions assez pourries aussi sur Mubi, qui est une très bonne plateforme, mais sur mon ordi qui est assez mauvais. J'avais vu l'année dernière à Marienbad, c'est ça le titre.
Beaucoup plus difficile à voir.
Et ben il m'a fallu, en fait je l'ai pas vu deux fois, hein, je l'ai vu en deux fois parce que en fait je tombais d'épuisement devant, parce qu'en réalité je pense que là pour le
coup, il y a quelque chose en lien avec le sommeil en plus dans le
film. En plus, donc
c'est
en réalité,
un peu somnambulique.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là ça souffrait vraiment de. Alors que mon oncle d'Amérique, je sais pas.
Mais c'est marrant que t'opposes pas vraiment les deux, mais que tu les compares, parce que c'est vrai qu'il y en a un qui se voit très très bien, mon oncle d'Amérique, oui. Alors que l'année dernière, Marienbad, si on n'est pas dans les conditions les plus adéquates,
c'est dur. J'avais l'envie de le voir jusqu'au bout, et c'est ce qui m'a poussé à le regarder, à réallumer mon ordi et à le regarder le soir suivant. Mais en fait, c'est épuisant en fait comme film aussi. Je pense que c'était son but aussi. Il y a un truc lancinant, hyper répétitif et tout. Donc c'est vrai que peut-être que dans une salle de cinéma, je me serais rendu.
Mais alors que c'est vrai que Mon oncle d'Amérique, comme d'autres de ses films d'ailleurs, il y a plus quelque chose de l'ordre du fragment aussi, c'est des ça. Petites choses. Enfin, il était très fan de BD en plus à la René, donc.
Ouais, du coup, il y a ça aussi.
Ça peut se feuilleter, ça peut se regarder, exactement. Ça peut se picorer un petit peu aussi, peut-être.
Il y a une notion de découpage, enfin, je sais pas, qui fait que ton cerveau est en alerte du début à la fin du film, quoi.
C'est ça.
Et juste pour rappeler, si tu peux rappeler un tout petit peu l'intrigue, parce que moi j'avais aussi l'impression que, certes c'est très ludique, mais l'intrigue est un peu complexe en soi, et donc justement tu peux être perdu par tous ces niveaux différents
de
narration.
Ouais, et c'est pour ça que j'ai eu envie de le voir deux fois d'ailleurs, parce que, je saurais pas redire exactement l'intrigue, mais en gros, on suit le parcours de trois personnages, me semble-t-il, qui à la fin se rejoignent, puisqu'il y a... Il y a une histoire à la fin de reconversion professionnelle, enfin pour dans la cuisine pour un des personnages, et en fait, enfin c'est un peu d'ailleurs souvent comme ça là dans les films d'Alain René, ou un peu choral, enfin pas tous hein, mais là c'est un peu le côté choral avec trois personnages, et il y a trois intrigues en fait où on revient sur l'enfance à chaque fois des personnages, un côté un peu déterministe, et puis il y a Jean Laborie, c'est ça, qui justement expose sa thèse qui est assez belle aussi sur les études sur le cerveau des souris, ouais. Etc., les conditionnements et tout ça. Enfin, je pense que le propos aussi était... c'est de l'ordre de quelque chose qui t'attrape aussi, qui pourrait être une lecture au final. Donc, ça a fait que les conditions de visionnage n'ont pas trop porté préjudice au film.
Et du coup, on va continuer à parler de conditions, parce que on s'était dit que toi, en tant que cinéaste, cinéaste d'animation, c'était important pour toi les supports, la façon de faire le film, et on s'est demandé si en tant que spectatrice, t'étais aussi attachée à certaines conditions, que ce soit celle de la salle, celle de la pellicule, ou si, au contraire, ça t'importait peu, en fait.
C'est ça. Et moi, je dirais qu'en soi, ça m'importe peu, puisque j'arrive à me contenter, à avoir Enfin, il y a des films qui me marquent et que j'ai vus. Enfin, c'est pas le premier Mon Oncle d'Amérique que je regarde sur mon petit écran pourri d'ordinateur. Hein. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a, il y a des films comme ça qui ont une telle force qu'on peut les regarder un peu n'importe où, n'importe comment. Ça rend pas plus faible des films où il faut des bonnes conditions de projection, mais il y a quelque chose qui résonne en soi. Enfin, c'est propre à chacun. Et après, moi, je suis pas une super tatillon des conditions de projection. Ceci dit, c'est vrai que quand j'étais aux Arts Déco et qu'on allait, enfin, que mes amis cinéphiles plutôt m'emmenaient dans les salles comme La Clé, les Grandes Actions, etc., j'ai des souvenirs mais de projections en pellicule, par exemple, magnifiques, enfin, de Blow Up notamment. Le titre suffit à dire mon émotion, quoi. Et donc, je dirais que je reconnais totalement que les meilleures conditions de projection sont fantastiques. Et après, quand il s'agit de projeter son propre film, c'est très différent aussi. On se rend compte que les meilleures conditions de projection, bah, c'est là qu'on profite le mieux du film. Enfin, moi, en tant que réalisatrice, et je pense la salle aussi. Donc, maintenant, j'essaie de rendre justice aux films que j'ai vraiment hyper envie de voir, que ce soit des sorties ou des films anciens, d'essayer de les voir dans des bonnes conditions. Après, c'est pas toujours possible.
Mais justement, tu as l'air d'être une spectatrice assez enthousiaste, justement, quel que soit le support. Ouais, mais est-ce que pour toi, il y a quand même, comme tu parlais de l'année dernière à Marine Bad, que tu as eu vraiment du mal à voir sur ton écran, alors que Mon Oncle d'Amérique, c'était beaucoup plus facile. Est-ce que quand même, d'après toi, il y a des films qui sont mieux en salle, alors que d'autres se prêtent complètement à un visionnage dans n'importe quelle condition? Est-ce que tu fais un peu la différence en fonction des films ou pas du tout?
J'ai l'impression, moi, que les films qui se passent dans des grands espaces, notamment... Eh ben, si je les vois en salle, mais c'est magnifique, quoi. Et je pense aux Moissons du ciel que j'ai vu par ici. Je pense que c'était pas La Clé, mais et en fait, de le voir sur un écran d'ordi, je suis pas sûre que j'aurais la même émotion. C'est évident. Mais c'est peut-être vrai, c'est très certainement vrai pour Mon Oncle d'Amérique. Je pense que comme il y avait le côté documentaire, sociologique, etc., ça
se prête quand même.
Ça se prête, mais c'est vrai que, de voir un Et donc, moi, je dirais que, en tout cas, par exemple, je ne crois pas que j'ai vu La Leçon de Piano en salle. Et je pense que là, par exemple, mais j'y cours, quoi, si demain, il y a une projection de La Leçon de Piano en salle. Et par contre, j'avais vu Bright Star en salle. Et oui, déjà, il y a l'ambiance de la salle. Ça, c'est un peu irremplaçable. C'est quand même magique d'aller au cinéma. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres plaisirs aussi complets, quoi. Enfin... Et donc, voilà, j'ai l'impression que les films où il y a de l'espace, j'aime bien les voir en salle. C'est très personnel.
Et puis
c'est pas y a pas que ça. C'est un exemple.
Oui, parce que j'avais l'impression de la manière dont tu en parlais, des projections que tu as fait quand tu étais à l'ENSAD, etc., que c'était encore plus les souvenirs de la projection qui te marquaient, alors que quand tu regardais le film sur petit écran, tu le regardais pour le film, donc c'était la narration et ce qui s'y passait qui te marque le plus, la manière dont tu le vois ou ce qui va se passer durant la projection.
Je trouve qu'il y a une espèce d'attente et d'excitation dans le fait d'arriver dans une salle et de se dire qu'est-ce qui va m'attendre en fait. Enfin, est-ce que je vais être déçu? Est-ce que je vais. Enfin, qu'il n'y a pas quand tu ouvres ton écran d'ordi et que tu regardes un film dans ton lit. Mais ça, c'est très personnel. Hein. Peut-être que ça ne concerne que moi. Mais c'est vrai que la salle, il y a quelque chose de. Enfin, je sais pas, il y a une excitation. Une attente, alors pas pour tout, mais...
Et est-ce que tu as le souvenir d'une séance de cinéma qui t'a plus marqué par ce qui s'est passé à l'intérieur de la salle que par ce qui se passait à l'écran?
Attention, je vais faire une énorme référence cinéphilique. Mais moi, des séances mais géniales que j'ai faites, c'est des séances de Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux. Parce que, en fait, c'est des salles de fans.
Oui,
c'est génial. C'est une espèce de folie qui s'empare des gens. J'avais vu Harry Potter 4 en
salle.
La coupe de feu. Et en fait, au moment où arrive Cédric Diggory, la salle a hurlé. et c'était hyper drôle. C'était, je sais pas, il y a une... de communion,
de fan attitude.
De fan attitude qui est très drôle. Après, dans des choses moins... peut-être plus cinéphilique, entre guillemets, et plus de l'ordre du cinéma. J'avais trouvé ça génial aussi, le dernier film de Bélatar, Le Cheval de Turin. Et en fait, on était assis dans les rangées, c'était à Montparnasse, je ne sais plus. Et il y a un moment donné où, effectivement, ça tirait, quoi. Genre, t'en peux plus, là, de cette épluchage de pommes de terre qui revient tout le temps. Il y a un type qui s'est levé, qui a fait « Ah, oh, ça suffit, là, j'en ai marre !» Et il s'est barré. Et c'est... Enfin, voilà, c'est quand même c'est des trucs géniaux que tu vivrais pas chez toi tout seul, quoi.
C'est drôle, parce que quelqu'un avait raconté un souvenir de séance du Cheval de Turin. On avait donné des patates aux spectateurs.
Ah ouais,
dans la salle.
Ah, génial. Chaude, j'espère. Genre, mais hyper brûlante, quoi, parce qu'ils ont l'air de vraiment se cramer les doigts, les mecs.
Non, mais cette histoire, elle remonte à assez longtemps. Je sais plus dans quelles conditions elle m'avait raconté ça, mais ça m'avait marqué. Mais
c'est une super transition parce que notre prochaine question...
C'est dans la catégorie mémoire et sommeil.
Oui, et qui on te demandait s'il y a un film pour toi qui ressemble à un rêve, et tu nous as parlé de Bellatar.
Des harmonies Werkmeister.
Ça, c'est pareil, c'est celui qui m'est venu le plus comme un espèce de rêve. Enfin, moi, je me rappelle... D'ailleurs, je l'ai pas vu en salle, mais je l'ai vu projeté. Enfin, j'ai un petit vidéoprojecteur, je crois. Je l'avais regardé chez... Ou chez quelqu'un qui avait un vidéoprojecteur. En tout cas, je me rappelle pas d'une petite... Lucarne, mais d'une grande. Et il y a un... Je me rappelle... Bah, d'ailleurs, ça pourrait être un film dont je me souviens pas de l'histoire, mais je me souviens des détails, d'ailleurs, comme il y a une question là-dessus. Et en fait, c'est un espèce une espèce de déambulation avec une musique qui est magnifique aussi. Enfin, et on est comme dans un rêve, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas.
Mais c'est l'impression, en tout cas, que donnent les films de Bellatar, parce qu'ils sont très, très, très lents, très, très longs aussi.
Ouais.
La caméra, elle est assez lancinante, elle danse un peu autour des personnages. Enfin, j'ai revu la séquence d'ouverture hier.
Ouais,
qui est un plan séquence, ouais, quasiment.
Qui dure 20 minutes, enfin, je sais pas combien de temps.
Une dizaine de minutes,
ouais,
l'ouverture.
Ça semble infini.
Et
quoi,
oui, c'est quelqu'un qui parle, qui met les gens comme ça dans la pièce en disant « Toi, t'es le soleil, on tourne autour.
Ouais, »
Et la caméra tourne autour des personnages sur cette musique aussi. Et puis, ouais, il y a toujours quelque chose de l'ordre du rêve.
Ouais, moi j'ai cette impression-là, puis cette espèce de baleine qui est hyper bien refaite, qui ressemble à une vraie baleine, qui est hyper organique, qui a l'air toute droit sortie d'un espèce de cauchemar, enfin, c'est tout ça. Et...
Parce que oui, juste pour recontextualiser, c'est en gros un cirque qui arrive dans une ville avec une baleine qui est en train de mourir, je crois. Oui, tu te souvenais même pas de l'histoire?
Ah non, je me souviens pas du tout de l'histoire.
C'est très difficile de raconter les histoires de baleines.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est...
T'es plus dans une ambiance, oui, comme dans un rêve, t'es plus dans une ambiance que dans une histoire.
Bah, c'est souvent une ligne narrative hyper fine, en fait. J'ai l'impression que Bellatar est beaucoup d'ambiance, quoi. L'homme de Londres aussi, c'est une micro-histoire, je crois.
Bah, L'Homme de Londres, c'est une adaptation d'un roman
Simenon.
De Georges Simenon, je crois. Et donc quelque chose de très, très franco-français, quand même, à la base, une espèce de roman de guerre, de polar, quoi. Et il en fait un truc, moi aussi, je l'ai vu, et je ne pourrais plus raconter l'histoire de celui-là. Je l'ai vu il y a 2 ans, pourtant.
Ouais.
Et ça s'étire, en fait. Il étire tout, et du coup, t'en perds totalement le... Ça t'a plus d'intérêt, forcément, pour la narration, ce qui est très bien. T'es juste dans le film...
Et est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie de te réveiller, enfin de sortir de là, où t'es vraiment un truc où tu plonges et...
Ah non, je crois que je suis plongée, je suis ressortie à la fin en me disant, mais en fait, la nuit, laissez-moi dedans, quoi. Enfin, tellement. Ouais, il y a une. C'est oui, t'es ailleurs, quoi.
Et justement, notre prochaine question, c'était autour des détails. S'il y avait un film dont tu te souvenais, enfin, dont tu as oublié l'histoire, mais dont tu te souvenais des détails. Donc, si on reprend sur Bellatar, est-ce qu'il y a certains petits détails qui t'ont marqué?
La baleine, justement. Voilà. Et j'aurais pas pu la raccrocher à un cirque ou à un quelconque récit. Je me souviens pas du reste du film, mais par contre, cette baleine-là, je l'ai encore là imprimée bien à l'intérieur des yeux.
Bon, on va changer de registre complètement. Ce qu'on t'a demandé pour... Donc, une carte blanche où tu nous racontes une scène de cinéma. Donc, tu es reparti, tu refais le grand écart en nous racontant une scène de Jurassic Park. Je te laisse la raconter.
Ah oui, alors, du coup, qu'est-ce que... Donc, je dis pas quelle est la scène.
Non,
bon, alors, je suis dans la... Enfin, on est deux dans une cuisine d'un vieil hôtel, enfin d'un resort tout neuf, d'ailleurs il n'est pas vieux mais il a pris cher là dans le film. Il n'y a plus d'électricité et on s'est quand même déjà bien fait pourrir par tout un tas de dinosaures un T-Rex, mon petit frère s'est pris une décharge électrique sur une clôture à haute tension. Enfin voilà, on doit puer un peu, je pense. On a les joues bien sèches avec de la terre et des larmes dessus. Et on est calé là de dos contre un petit meuble de cuisine en métal. Et c'est marrant, il a fallu que je revoie la scène d'ailleurs pour me rappeler de qui disait quoi, parce que j'avais tout mélangé. Et donc, on est tous les deux comme ça. Et en fait, on entend une poignée de porte qui... Ça fait clink, 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 puis ça s'ouvre. Et là, le petit frère en question chuchote. Je crois que la petite fille demande qu'est-ce que c'est. Et il répond, c'est un vélociraptor.
Mais pourquoi t'as choisi cette scène?
Parce que je trouve qu'en termes de sensation, elle est hyper complète, quoi. Il y a tout. Enfin, il y a la peur, il y a l'odeur, franchement. Moi, dans ce film-là, juste de voir leurs vêtements après qui ce soit. Il y a ça, et c'est marrant, il y a Chérie, j'ai rétréci les gosses. Où il y a ce traitement-là, je ne sais pas ce qu'ils faisaient à cette époque-là à Hollywood en termes de patine de vêtements, mais ça a l'air vraiment de blairer, quoi. Et donc, du coup, ils ont l'air, mais ils sont gras, puants, ils ont les cheveux collés. C'est un des films où, par exemple, j'ai la notion d'odeur qui me vient, quoi, alors que ce n'est pas toujours évident. J'aurais pu citer des films où on fait de la cuisine aussi, notamment là, des films japonais. Enfin, je ne me rappelle pas forcément le nom des réalisateurs. Où là, pareil, il y a des sensations. Mais je trouvais qu'il y avait ça. Il y a le son, les petits trucs métalliques là, du raptor. C'est génial. Et le traitement aussi, l'espèce d'aboiement, les sons qui sont mélangés pour arriver à faire un cri qui nous fait froid dans le dos, alors que si tu dissocies les pistes, sûrement que c'est des trucs assez cons. Il y a la peur qui monte. Voilà, pour moi, c'est pareil. Hein, j'ai vraiment à chaque fois essayé de chercher le moins possible et de donner le plus honnêtement les choses qui me venaient à l'esprit. Et peut-être parce que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps aussi, Jurassic Park. Mais ça m'a... Je trouve qu'il y a tout dans cette scène. Et puis après, comme ils arrivent à s'en sortir et tout. C'est assez génial. On est vraiment que dans la sensation. À ce moment-là, on oublie quasiment de réfléchir, quoi. On est en apnée. C'est la force du cinéma de Spielberg aussi.
Elle a quand même une utilité scénaristique, mais on l'oublie quasiment. En fait.
Oui. C'est... Elle s'isole, cette scène.
Elle est très primitive, ouais. C'est ça.
C'est la survie, quoi. C'est vraiment...
Elle tient toute seule, cette scène,
ouais.
En fait. C'est impressionnant.
Oui. Moi, c'est ce que je trouve après.
Mais moi, ce que je trouvais marrant, c'est que je trouve que quand même, durant tout le film, on est quand même assez stressé et assez angoissé pendant tout le film, globalement.
Oui, ça, c'est sûr. Il y a peu de moments de
relâche. Ouais. Mais donc, tu aurais pu choisir pléthore de scènes assez angoissantes dans le même genre. Mais dans cette scène-là, il n'y a que les deux enfants. Donc, je trouvais ça assez marrant par rapport à tout ce qu'on parle de l'enfance, de l'honorisme, etc. C'est la seule scène où les deux enfants sont seuls et ils n'ont pas d'adultes pour les sauver.
Ouais,
et ils se débrouillent encore mieux que s'ils avaient été avec des adultes.
Je pense que c'est aussi ça qui m'a toujours accroché dans cette scène. C'est qu'ils sont tout seuls, quoi. Et puis, en plus, ils sont hyper malins. Et ils sont dans l'instinct, ils réfléchissent pas. C'est pas comme après quand le petit gamin il va faire le geek là pour aider à je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'il fait. Il fait du code à un moment ou quoi. Enfin, ils sont pas dans la pensée, quoi. Ils sont dans l'action immédiate et dans. Alors évidemment, c'est scénarisé. Hein. Je suis pas sûre que deux gamins face à ce genre de bestioles s'en sortent aussi bien que ces deux-là. Mais c'est voilà. Il y a pas de. Ils établissent pas un plan. Ça part direct. Ils ont pas d'autre choix que d'essayer de survivre. Mais il y a le pendant de cette scène-là avec la nana qui va remettre l'électricité, c'est un peu pareil.
Radar,
C'est vraiment être dans une espèce de truc. Et ça emmène, ce que je trouve réussi du coup, c'est que ça pourrait être foiré. On pourrait, en tant que spectateur, ne pas du tout être dans l'instinct, ne pas être tendu. Alors, il y a peut-être certains spectateurs sur qui ça marche pas, mais moi ça marche super bien. D'un coup, j'oublie tout, quoi.
La prochaine question qu'on te demandait, c'était... Parce que toi, tu as fait des études de lettres, si je ne me trompe pas, avant les arts déco. Et on voulait te demander, parce que... Donc, comme je disais au début, tes films, c'est beaucoup des ressentis plus que des narrations. Mais tu nous as quand même beaucoup parlé de films qui t'ont marqué, où la narration est importante.
Ouais.
Et donc, on se demandait quels étaient un peu les supports, qu'ils soient cinéma, écrit, illustratif, qui t'ont marqué et qui t'ont poussé à vouloir créer des histoires.
Ouais, et c'est vrai que, enfin, j'aime énormément quand il y a une narration dans un film, et j'aime aussi quand il y en a pas. C'est-à-dire que les deux sont, en fait, c'est des expériences. Enfin, c'est tellement particulier et c'est propre à chaque film que, enfin, moi, j'ai pas de loi dans ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Bon. Et en termes de livres ou de BD, etc., c'est un peu pareil. C'est-à-dire soit ça attrape, soit ça attrape pas. Et de choses qui m'est vraiment, en fait c'est marrant parce que aux Arts Déco, moi je pensais pas faire du cinéma d'animation et je voulais faire illustration et en fait faire une image fixe, mais c'est tellement dur de faire une belle image fixe que d'un coup on a eu ce module animation et je me suis dit mais oui c'est là qu'il y a j'ai des choses à exprimer bien plus que par une image fixe quoi. Et du coup, je me rappelle qu'à l'époque où il fallait un peu trouver des idées pour nos films de fin d'études, je m'étais interrogée sur adapter, demander des droits d'adaptation que j'aurais sûrement pas eu, mais Neige de Maxence Fermine. Je ne le ferai plus aujourd'hui. Je pense que ça a beaucoup. Enfin, c'était un amour de jeunesse ce livre.
Puis est-ce que tu peux raconter un peu ?
Je crois que c'est l'histoire d'un poète. Je crois que il me semble que ça se passe au Japon. Et c'est sur des haïkus, donc l'écriture est très, très légère. Très... C'est pareil, j'ai plus des souvenirs de l'écriture du livre qui est très belle que de l'histoire en elle-même. Je crois qu'il y a une histoire d'amour et c'est un poète qui part auprès d'un maître apprendre à faire des haïkus, il me semble. Et après, il y a un livre que j'aimerais vraiment adapter un jour, mais ce jour viendra peut-être. c'est Nive, sur la trace de Nive d'Eri De Luca. C'est un livre d'entretien entre Eri De Luca, qui est un auteur italien, qui a un profil très intéressant.
Très politisé.
Très politisé, extrêmement cultivé, qui s'est intéressé à l'hébreu ancien. Enfin, et donc entre cet auteur-là et une alpiniste qui s'appelle Nive Meroy, qui est la première femme, enfin, non pas la première femme justement, qui aurait pu être la première femme à faire tous les 14 8000 de la planète sans oxygène.
C'est-à-dire les 14
8000 14 sommets, pardon, de 8000 mètres ou de plus sur la planète. Et cette femme-là les a tous faits. Pas pour l'exploit, elle s'en fout un peu, mais parce qu'elle aime la montagne et qu'elle aime cette sensation d'être au-dessus de tes limites. Et donc, les entretiens sont passionnants et je trouve qu'il y a tout un tas de sensations qui justement se prêteraient vraiment à l'animation et à faire quelque chose où justement il y ait de la narration et de la contemplation. Enfin voilà, il y a ça et puis j'en avais cité deux autres mais après on n'est pas obligé parce que ça c'était les autres c'est plus des livres que j'ai vraiment aimés qui m'ont donné des images mais
j'ai deux questions pour toi parce que la première c'est pourquoi c'est si difficile de faire une image fixe dont tu parlais au départ et la seconde c'est pourquoi t'as choisi des romans comme vecteur d'histoire enfin qui t'inspire parce que là tu racontais tu dis ça me donne des images est-ce que c'est pour ça est-ce que lire des romans ça te donne plus d'images que et d'envie de créer des histoires que de voir un film.
Ah oui, j'aurais pu donner des films aussi qui m'ont donné envie de faire des... Enfin, il y a eu plein de films d'anime que j'ai découvert en section animation aux Arts Déco qui m'ont donné envie de faire des films et qui ont fait vachement évoluer ma vision de comment on fait des films, etc. Je pense que je suis arrivée aux Arts Déco, moi j'étais genre vraiment le degré zéro de la culture de cinéma. Enfin, ce dont j'ai pas honte du tout parce que je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de vraie culture ou de fausse culture. En fait, chacun a le bagage qu'il a et les émotions qu'il a, et c'est ça qui est merveilleux. Mais c'est vrai que d'être dans une école, ça a un intérêt dans le sens où tu vas être amené hors de ta zone de confort intellectuel, on va dire, et d'un coup, ça va t'ouvrir des portes. Et donc, bon, ben, après, il y a tous les films d'Atsushi Wada, les films de Kovalyov. J'ai plein de choses qui m'ont marqué au cours notamment de mes études. Mais c'est vrai que les livres... je trouve qu'il y a une... En fait, les images ne sont pas données. Alors, les BD, par exemple, j'aurais vachement mal à adapter une BD, parce qu'il y a déjà l'univers graphique. Et j'aurais du mal à m'en défaire, en fait. Mais par contre, un livre, selon les personnes, si tu lis le même livre, tu n'as pas les mêmes images, c'est évident. Et si tu... Et même parfois, tu ne retiens pas du tout les mêmes points de l'histoire. C'est vrai pour des films aussi, hein, d'ailleurs. Mais je trouve que, moi, quand je lis un livre, d'un coup, mon imaginaire, il s'éveille... de manière assez violente, quoi. Enfin, ça d'un coup, il y a des choses qui se passent, puis il y a des formulations en une phrase où tu arrives à avoir une image qui elle vient, puis elle disparaît. Enfin, je sais pas, il y a une espèce dans les livres. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait que tu te dis, ah, j'aurais la liberté de faire naître des images de ça. Et je trouve que le plus emblématique de cela, c'est quand même Sur la trace de Nive d'Éric De Luca, parce que il y a pas une histoire et un fil narratif imposé. Et du coup, ça donnerait vraiment matière à réfléchir, à s'emparer du livre et à se dire qu'est-ce que moi je vais choisir de raconter. Cette personne-là est encore vivante, donc aussi est-ce que je pourrais aller la voir pour faire des entretiens? Qu'est-ce qui pourrait sortir de ça? Et en fait, pour moi, en fait, c'est juste que l'image fixe, je suis pas très bonne. Enfin, je pense qu'il y a. Enfin, moi, j'admire des gens qui font des images fixes qui sont d'une beauté et qui sont un film en soi. Par exemple, je sais pas moi, des personnes, enfin, pour citer des gens de ma génération qui étaient aux Arts Déco avec moi et qui maintenant sont plus connus et dont vous connaîtrez peut-être le boulot où c'est facile d'accéder à leur travail. C'est, par exemple, des gens comme Pierre Ceinturier ou Marie Larrivé. Je fais de la promo à intra Art Déco. Il y a bien sûr un milliard d'autres personnes. Hein. C'est pas du tout. Enfin, c'est juste que c'est les deux noms par exemple qui me viennent parce que Marie Larrivé, elle va finir un film là justement que je rêve de voir parce que enfin c'est pour moi l'alliage parfait entre l'image fixe magnifique qui pourrait bouger et le mouvement et pareil les peintures de Pierre Ceinturier. Elles ont cette capacité comme ça de un peu enfin du coup pour aller bien au-delà enfin du Hopper ou des enfin c'est alors c'est de la peinture figurative hein. Il y a le non figuratif ça marche aussi mais voilà il y a ce côté moi je trouve d'arriver à faire une image fixe qui fonctionne qui se tienne qui est la composition parfaite et...
on est illustré sonorement
ouais voilà là on a une belle illustration sonore de la... ben c'est enfin moi j'y arrive pas je sais pas faire ça.
Et mais et parce que tu parlais juste pour reprendre une dernière question sur Nive, sur le livre d'Éric De Luca, est-ce que tu as justement une sensation dont tu te souviens du livre et que tu vois très bien en animation, enfin, que tu t'es fait ton mini-film dans la tête en lisant ce mot-là ou cette phrase-là ou en ressentant
Ouais, j'avais fait des relevés d'ailleurs de phrases avec ma scénariste Johanna Kravzik, là, avec qui j'ai travaillé sur l'heure de l'ours. Enfin, je dis ma scénariste, elle n'est pas à moi, mais avec la scénariste avec qui j'ai travaillé. Et en fait, il y avait notamment, enfin, je n'ai pas forcément la phrase en tête, mais elle a une manière de s'exprimer. Alors, c'est retranscrit par Éric De Luca, donc c'est, je pense, encore plus littéraire que ce qu'elle dit. Qu'elle a dû dire sous la tente à Éric De Luca, mais parce que oui, cet entretien il se passe en haute montagne en plus. Enfin, il y a un truc, la tempête fait rage autour. Enfin, et je trouve tout ça assez cinématographique. Et il y a un moment où elle parle du fait que quand elle est en altitude, à ce point, au-dessus de 8000 et même un peu en dessous, elle a plus de cycle, elle a plus ses règles. Et en fait, un jour, elle a une énorme fatigue et d'un coup, sous la tente, elle met ses mains entre ses jambes et elle se rend compte qu'elle a du sang sur les mains. Donc elle a ses règles, alors qu'elle est... Enfin, j'ai le souvenir de ça, je suis pas sûre que ce soit hyper exact. Mais ça, je me le suis... Enfin, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, j'ai vu la possibilité de l'animer de manière métaphorique et de le voir, et de le sentir, d'avoir, une espèce de... Où t'as le son aussi qui pourrait... Enfin... Et bon, c'est hyper cru hein, comme scène. Il y a plein d'autres scènes. Il y a des scènes de marche, des scènes de sauvetage, des scènes... Enfin, en fait, ce que je trouve dans ce livre, c'est qu'il est assez complet entre des choses très intérieures et des aventures. Parce que c'est quand même...
Une aventure en soi.
Un peu une aventure en soi. Ouais.
D'aller marcher voilà. Jusqu'à 8000 km.
Ouais, c'est ça.
Bah, du coup, sans transition... C'est difficile de passer d'une tente à des festivals, mais en tant qu'artiste, en fait, on s'est dit que tu semblais quand même beaucoup apprécier le court-métrage. Je crois que tu en as un peu parlé aussi, et que c'était un format qui était assez libre pour toi. Et justement, on voulait poser une question sur ton attachement à ce format court. Et tu nous as cité beaucoup de courts-métrages que tu as découverts en festival.
Cette année, du coup, comme j'ai pas mal été en festival.
J'ai essayé de tisser quelques liens entre tout ce que tu nous as cité. Bon, il y a des films en prise de vue réelle quand même, mais il y a quand même pas mal de films d'animation. Je pense par exemple à Riviera de Jonas Losing, ou même Mouton, Loup et Tasse de thé de Marion Lacour, ou encore ce magnifique gâteau de Emma Dossouef et Mark James Rolls, qui sont effectivement des films qui ont eu un certain succès en festival. Et moi j'ai l'impression que là, le lien entre tous ceux que j'ai cités, c'est vraiment la vivacité de l'animation avec des techniques très différentes en plus. Enfin, il y a vraiment une scène, même internationale, qui est très...
Bah, oui, là, où l'animation est justement tout sauf... La 3D qu'on voit, qui est très belle, hein, de Pixar, ou enfin il y a des choses très visibles, ou des 3D de moins bonne qualité, il y a des choses très visibles comme ça dans les longs métrages, et des choses plus discrètes, hein, notamment, enfin plus discrètes, qui ont moins de vues en salle, mais qui ont un bon retentissement critique, par exemple J'ai perdu mon corps, qui explore plutôt que exploite, enfin des techniques d'animation hybride, ou en fait ce qui est beau dans l'animation, c'est que il y a mille façons d'en faire, donc il y a autant d'univers graphiques qu'il y a d'auteurs. Même dans la 3D, enfin il y a autant, enfin si vous prenez David Aurélie, il fait plein de 3D, je sais pas si vous voyez ce réalisateur, mais c'est génial ce qu'il fait, ça vaut le coup d'être vu, ou Rostow, etc. Enfin ouais, en fait il y a tellement de possibilités, et je trouve que, oui, il y a, comme tu disais, il y a une vraie vivacité de ça. On espère que ça se perdra pas, je pense pas, d'ailleurs. Mmh. Et ces films-là, ils ont à la fois la capacité d'explorer une histoire, et en même temps, il y a de la sensation. Enfin, on n'est pas que dans purement une narration. Par exemple, ce magnifique gâteau, ouais, il m'a soufflé, ce film, parce que...
En laine, ouais. Donc il y a vraiment le toucher, en plus.
En plus, c'est hyper organique.
Complètement fou, en fait.
Ouais.
C'est...
Et puis, il traite d'un sujet tellement, tellement complexe, avec une telle justesse. Et voilà, enfin, il est incroyable, je trouve. Et il dérive. Et hop, on sort du propos. D'un coup, on est dans une caverne, sous la maison, cette espèce de fou furieux, là. Enfin, et je trouve... Voilà, je trouve qu'il est... Il est génial, ce film, quoi. Déjà, Oh Willy, il était fantastique aussi.
Et c'est un peu un rêve aussi, je trouve, ce film.
Exactement. C'est une espèce de rêverie révoltante sur la...
Ah oui, complètement
sur
révoltante.
Sur la colonisation.
Et... ça se passe au Congo belge.
Ouais, c'est ça. Et c'est... Enfin... Mais c'est ça qui est génial. C'est que le propos n'est pas du tout effacé par la rêverie. Au contraire, il en est renforcé, quoi.
Et moi, ce qui m'avait marqué dans tous ces courts-métrages aussi que tu nous as cités, c'est que c'est vraiment des films, et c'est souvent le cas en animation, enfin, et même dans beaucoup de films d'animation que tu nous as cités, Kovalev, etc., il n'y a pratiquement aucune parole. Et oui, tout passe par l'image. Enfin, il y a un truc où, déjà, en animation, il y a peu de paroles, en termes, enfin, généralement, mais là, c'est vraiment réduit au strict minimum. On est vraiment juste à la respiration, au hockey, ou des choses comme ça. La parole est vraiment... C'est pas des films verbeux du tout, quoi. On est à la présence de l'image extrême.
Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est mon petit point faible en animation, c'est que j'aime beaucoup les films... En fait, j'adore quand les voix et l'anime vont ensemble, et que c'est absolument juste et parfait. Par exemple... Je ne sais pas si vous avez vu Yule et le serpent de Gabriel Harel, par exemple. Là, je trouve que les voix ne décollent pas du tout de l'image, et il y a une osmose qui se crée qui est parfaite. Mais parfois, en animation, il faut bien le dire, eh ben, il y a les voix et il y a l'image. Et les deux, ça ne colle pas. Même quand le personnage parle, moi, je n'arrive pas, quoi. Enfin, genre, j'ai vraiment du mal à recoller les deux. C'est comme si c'est dissocié dans deux parties de mon cerveau. Et alors, c'est du coup un peu une faiblesse de ma part, c'est que j'aime énormément quand les films d'animation sont le plus silencieux possible, peut-être aussi pour éviter de me retrouver tiré de mon confort de visionnage.
Après, ils sont silencieux, mais ils font quand même la part belle au travail du son.
Oui, exactement.
Le son est toujours
alors,
très précis,
je dis silencieux
quand même.
Au niveau des voix, mais en vrai, oui, le son est hyper travaillé. Et justement, comme en animation, on part de rien, l'univers sonore est aussi très propre à chaque film. Chaque réalisateur va choisir ce qui va... C'est vrai aussi en prise de vue réelle ou prise de vue continue. Mais c'est vrai qu'en animation, comme on part vraiment de rien, le silence est la base, quoi. Enfin, donc,
on fait comme une page.
On choisit les sons.
Bien joué,
voilà. Et forcément, il y a un parti pris qui est fort selon chaque réalisateur. Où on choisit de tout briter et de tout mettre, où on choisit d'en mettre le moins possible et de faire émerger telle chose, telle son, pour pouvoir amener le regard à tel endroit. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai gros travail du son qui est obligatoire et qui est très riche en anime.
Et pour en revenir à tous ces courts-métrages, justement, à cette scène actuelle, est-ce que toi, tu te sens proche de certains cinéastes ou au contraire, tu as l'impression que c'est des gens qui font des choses isolées et très différentes dans leur coin ou...
Non, moi j'ai l'impression... Enfin, après, je ne veux pas dire qu'on est une grande famille de l'animation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve... Enfin, en tout cas, ce n'est pas compliqué de se rencontrer en festival, que ce soit des festivals d'anime ou festivals de court-métrage. C'est quand même un petit monde. C'est quand même souvent des gens mignons. Hein. Voilà, il n'y a pas tellement de... Enfin, en fait, en plus, en animation, moi, j'ai l'impression que comme on travaille dans le noir, dans notre coin, pendant 6 mois, on est hyper content de se retrouver à la fin, quoi. Il y a un effet déconfinement après un film qui est assez obligatoire. Donc, du coup, il y a quand même... Enfin, je ne sais pas, il y a une facilité d'écoute et de partage de pas mal de choses. Et moi, je me sens pas isolée en tant que réalisatrice entre guillemets de films d'animation, vu qu'on en fait genre un tous les 6 ans. La pratique est quand même assez ardue. Mais je trouve qu'au contraire, je me nourris beaucoup de ce que je vois autour de moi et des discussions que je peux avoir avec les autres réalisateurs, alors que ce soit des amis. À qui on se confie vraiment un regard sur le travail ou juste une discussion en festival ou ailleurs. Enfin.
Et on va passer à notre dernière question qui est celle du film Refuge, où on va passer du court-métrage d'animation très, très auteur en festival à des films beaucoup plus... pas grand public, mais en tout cas qui font le grand écart par rapport à
ça. Il y en a un des deux qui est très grand public, quand même.
Franchement, lequel ? Parce que les deux...
Enfin, les deux, mais Jane Campion, ça réunit pas forcément tout le monde. Enfin, ça, elle a des grosses sorties, hein, bien sûr, mais je veux dire, c'est... Donc il y a Bright Star et il y a Le Seigneur des Anneaux. Je pense qu'elle n'a pas eu exactement le même nombre de, de vues. Enfin, je ne sais plus comment, je sais pas comment dire d'entrée.
C'est
d'entrée.
Entre eux, donc,
ouais. Mais en fait, bon, Bright Star, je dirais, c'est un film... Après, j'aurais pu citer un court-métrage, j'aurais pu citer... il y a des court-métrages auxquels je reviens tout le temps, les court-métrages notamment de Kovalyov, d'Atsushi Wada... il y a des choses comme ça qu'on revoit pour s'assurer que je sais pas que c'est toujours en place qu'on l'aime toujours autant mais quand je pense à la notion de refuge, je pense à un truc qui dure un peu en tout cas pour moi, et donc c'est vrai que Bright Star il s'étire dans le temps et il a un côté hyper triste et il a un côté en même temps hyper joyeux. Il y a plein de... il y a la nature qui est très présente, il y a cette belle histoire d'amour qui finit pas très bien, mais qui est super belle et qui est super bien filmée, évidemment. Je trouve que c'est un bon gros refuge, quoi, genre le jour où on a envie de se faire un film sans enfin, en ayant la juste dose d'émotion, enfin, je veux pas l'amoindrir. Il est vraiment, enfin, pour moi, c'est quand même c'est un film magnifique, hein. Mais voilà. Et ben, Le Seigneur des Anneaux, moi, c'est un bon refuge de genre, je sais pas, t'as 3 jours de pluie, tu te fais la trilogie, t'es tranquille, quoi. À la montagne, il fait un temps pourri, tu peux pas sortir, tu te mets un bon Seigneur des Anneaux.
Ça fait le
boulot, quoi.
Mais pourquoi, comment tu relis les deux ? C'est ça que je me suis demandé, parce qu'on passe d'un drame intimiste, mais quelque chose de très ciselé autour de, voilà, c'est John Keats, un poète du 19e siècle, ouais. Qui tombe amoureux de sa voisine, et du Seigneur des Anneaux, qui est un gros film épique, fantastique.
Ah, c'est pas les mêmes plaisirs.
Mais Aragorn tombe un peu amoureux de sa voisine aussi, hein. Faut pas l'oublier.
Non, c'est vrai, on les voit pas assez.
On les voit pas assez, je trouve que, ouais. Il y a un petit oubli là-dessus.
Oui, ils sont
non,
bien.
Mais
et ça finit bien.
Et ça finit bien, ouais. Ça, alors voilà. Non, mais je trouve qu'en fait, c'est juste... Moi, je pense que je suis pas une grande analyste. Et j'aime bien passer par l'émotion quand je vois un film. Et je trouve que c'est... Enfin, c'est bête, hein, mais moi, ça me donne pas du tout les mêmes émotions. Hein. C'est pas les mêmes types d'émotions, mais les deux m'embarquent et j'oublie un peu le reste du monde à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est parfois un peu dur de revenir dans le monde réel, surtout après Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que il y a un truc. Il y a la notion de refuge aussi parce que tu peux. Enfin, je sais pas, il y a aussi des choses un peu familiales. Moi, je sais qu'avec mon frère, mes parents. Se faire la trilogie du Seigneur des Anneaux à Noël, c'était un peu le... Enfin, voilà, ça nous arrivait, on va dire. Et je trouve que cette notion de refuge, elle est... Voilà, elle est globale, c'est-à-dire que tu la relies à quelque chose qui te rassure, auquel tu tiens. Et ce genre de moment où il fait super moche dehors et où tu vas allumer ton poste de télévision, car Le Seigneur des Anneaux, je le regardais en DVD sur une télé même pas plate. Et ben, il y a quelque chose de l'ordre du refuge, justement.
Non, et ce qui est marrant aussi, c'est que tous les opposent quand même ces deux films, mais oui. C'est fait par deux réals néo-zélandais.
Oui, c'est vrai, c'est drôle. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé du tout en les citant. Mais et tous les deux, ils ont. Je dirais aussi que moi, il y a une chose que j'aime énormément dans les films, c'est que c'est quand même. Enfin. C'est la capacité de filmer et de magnifiquement filmer le paysage. C'est-à-dire que c'est pas juste faire des vues du National Geographic qui sont magnifiques aussi, attention, mais c'est de ces paysages-là, ils résonnent avec une émotion, ils résonnent avec les personnages, ils ont du sens dans l'histoire. Et dans Le Seigneur des Anneaux, ben, justement, c'est aussi ce qui fait la force de ce film-là par rapport aux autres volets, genre les Hobbits et tout, oui. C'est que les effets spéciaux. Il y en a beaucoup, il y a les grosses batailles, etc. Mais il y a aussi tous ces moments où ils traversent des champs de blé, dans le 1 notamment, où ils sont dans de la montagne. Et ça, ils ont tourné en décor réel, justement, en Nouvelle-Zélande. Et moi, je me rappelle que je me faisais les bonus du DVD et que j'hallucinais sur les tournages. Enfin, les gars, ils sont en pleine nature. Et...
Mais ils ont construit beaucoup de choses. Il y a très peu de choses qu'ils ont fait.
Il n'y a pas beaucoup de 3D. Enfin, il y en a évidemment, mais le mélange, c'est pareil, c'est un peu comme moi, comme pour Jurassic Park, c'est un mélange qui fonctionne, qui est la juste dose. Je l'ai pas revu depuis longtemps. Alors peut-être
Jurassic
que je
Park
me plante.
Ou
le Seigneur des Anneaux. Donc peut-être qu'il a un peu vieilli, vu que on commençait quand même à mettre de la 3D partout, donc peut-être qu'il y a des choses qui
vieillissent,
qui sont moins, un peu, qui sont un peu flétries, quoi. Non, mais bon.
Rendez-vous quand tu auras besoin d'un refuge.
Ouais, voilà, voilà, exactement. Je pense que c'est que là, maintenant, j'ai du mal à regarder une trilogie avec deux petits-enfants.
Mais tu vas leur montrer.
Mais dès qu'ils seront en âge de voir ça,
ils le verront. Ben, merci beaucoup, Agnès.
Merci à vous
d'être venue et d'avoir répondu à nos questions. Je vais égrener la liste des remerciements. Nous remercions Anna Mendico pour ses illustrations graphiques, Gabriel Régnier pour sa musique et surtout le cinéma La Clé qui nous a accueillis dans sa salle du bas. Voilà, ben, merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt.